Chapitre 20. Mon premier problème fut de me débarrasser convenablement du formol. Après l'entrevue avec Shanna, j'avais appelé ma secrétaire pour lui demander d'annuler tous mes rendez-vous de la semaine. Pessimisme, préparation en vue du pire. Mon père adoptif avait raison. Ce n'était pas parce que j'étais insensible à la douleur que ma famille ne pouvait pas me faire souffrir. Ma sœur savait quelque chose. La demande d'entrevue, les questions des enquêteurs, rien ne l'avait surprise. C'était l'impression qui me restait de cette matinée. Les policiers pouvaient se congratuler et même me féliciter d'avoir obtenu que Shanna fournisse spontanément le nombre mystère, 153. Mais je la connaissais mieux que ça. Pour elle, il s'agissait d'un jeu. Et comme elle s'était présentée de son plein gré à la table de poker, j'en déduisais que c'était elle la meneuse, en réalité, et nous qui lui courions après. J'avais dit vrai. Je ne connaissais pas la signification de ce nombre. Mais Shanna la connaissait, et si elle affirmait que nous la laisserions sortir de prison le lendemain matin, qu'elle logerait chez moi, dormirait dans mon lit et porterait mes vêtements, je la croyais. La prédiction était trop précise pour être balayée d'un revers de main. Et cela me terrifiait. Formol. Je possédais toute une collection de flacons remplis de ce conservateur dans lequel macéraient des lambeaux de peau. Tout devait disparaître, immédiatement. Serez-vous surpris d'apprendre que je conservais ma collection sous le plancher de ma penderie? En tant que psychiatre, je peux vous dire que même les personnes les plus intelligentes sont gouvernées par des forces plus puissantes que la logique. Besoin compulsif, obsession, toxicomanie. Je me dirigeais vers mon grand dressing. La commode à gauche, en merisier, semblait encastrée, mais en fait, elle était amovible. Je me glissais derrière. Il me penchait sur les lames de plancher mises à découvert, reconnaissables à leur éraflure sur les bords. J'avais pratiqué cette cache moi-même, le week-end suivant mon emménagement dans cette tour de grand standing. Mon premier geste de nouvelle propriétaire. Révélateur, non? Dissimulé sous le plancher, un simple carton à chaussures. Tout ce qu'il y a de plus banal. Couvercle noir, côté gris-bleu délavé, marque depuis longtemps effacée. Le genre de vieille boîte esquintée qui aurait pu contenir des photographies aux couleurs fanées ou autres précieux souvenirs de famille. Je l'attrapai à deux mains et ressortis en me contorsionnant, mon trésor serré sur le cœur. Direction la salle de bain, à la déco moderne. Marbre blanc, meubles chocolat, carrelage gris et bleu. Je posai la boîte sur le plan de toilette couleur crème, à côté du second lavabo. Celui qui aurait dû être celui de mon mari, de mon compagnon, de l'amour de ma vie. Le lavabo, qui, depuis que je vivais dans cet appartement, n'avait jamais vu une seule goutte d'eau. Je retirai le couvercle du carton à chaussures et découvris un intérieur capitonné, étendu de soie, qui jurait complètement avec l'extérieur. Des flacons. Une quantité de minces fioles en verre, toutes à peu près de la taille d'un tube à essai. Toute munie d'un bouchon en caoutchouc. Pas de bocaux à conserve pour cette fille de Haridée. Cette branche de l'arbre généalogique était montée dans l'échelle sociale. Je m'avisai que je ne connaissais pas le nombre de ces flacons. Encore maintenant, j'avais tendance à les considérer comme un tout. La collection. Je n'en comptais pas les pièces, amassées par à-coups au fil d'une petite dizaine d'années. Toute psychiatre que j'étais, je refusais de regarder les choses en face. Je fermai les yeux, comme si j'étais l'une de mes patientes. Combien, selon moi, y avait-il de flacons? La question revenait à demander à une alcoolique combien de verres elle pensait avoir bu la veille. Je pariais sur 12. Un nombre déjà effarant. J'estimais avoir arrondi à la hausse, puisque la réponse que j'avais sur le bout de la langue, c'était 8. Là encore, comme l'alcoolique qui sait au fond d'elle-même qu'elle a un problème, j'aurais eu envie de dire que j'avais pris 3 verres, mais c'était sans doute plutôt 5. Fausse sincérité. Si je ne suis pas dans le déni, alors je n'ai vraiment pas de problème. J'ouvris les yeux, comptai les flacons. 21. Je vacillais, au point qu'il fallut que je me raccroche au bord lisse de mon plan de toilette. 21. Non. Comment? Jamais de la vie. Impossible. Je recomptai, plusieurs fois, et une étrange sensation me parcourut. Comme si mon âme, comprenant l'affreuse, l'abominable vérité, désertait littéralement mon corps. Descendait de ma tête à mes pieds, s'infiltrait dans le sol de la salle de bain et disparaissait dans le siphon de la douche. Transformé en esprit malfaisant qui regagnait les bas-fonds dont il était sorti. Je ne pouvais pas. Je pris un flacon au hasard. Informaticien, disait l'étiquette. Je revis soudain un cliché pris par la police dans le placard de mon père. Chemisier à fleurs, disait à l'époque l'étiquette sur le bocal. Un seul détail choisi au hasard. Tout ce qui restait pour relier le contenu du récipient à la jeune femme qui avait autrefois vécu dans cette peau. Mon corps fut saisi de tremblements. J'aurais voulu m'asseoir, mais je résistais à cet instinct. Mieux valait rester debout, m'obliger à affronter mon sentiment de culpabilité. « Mais sans douleur, » murmurai-je. « La lidocaïne, ils n'ont rien su. » Parce qu'au déni succède le besoin de se justifier. Je ne suis pas vraiment un monstre, comme mon père. Lui massacrait des jeunes femmes, qu'il gardait en captivité et torturait pendant des jours. Alors que moi, je ne subtilisais qu'un tout petit bout de peau à mes partenaires plongés dans le sommeil. Jamais ils ne frémissaient, ne se retournaient, ni ne ressentaient une perte quelconque. Juste un innocent souvenir de la seule et unique nuit que nous aurions passée ensemble. Soit dit en passant, certains auraient peut-être même accepté une telle transaction de leur plein gré. Je te donne une nuit torride, passionnée, sans engagement, sans obligation. La seule condition, c'est que tu me cèdes un mince vermicelle de peau qui se reconstituera en l'espace de quelques jours. Je levai le flacon étiqueté, informaticien, et j'observai mon reflet dans le miroir. Regardez-moi cette jolie femme qui a manifestement réussi dans la vie. Je me demande bien ce qu'elle tient à la main. Et je revis le sang de l'enquêteur sur mon doigt. Cette sensation, cette odeur, le puissant désir de goûter. Mes genoux cédèrent. Je m'effondrai sur le carrelage froid. Atteinte d'une maladie génétique rare, j'étais bien placée pour savoir que l'éducation n'aurait jamais réponse à tout. Nous sommes tous aussi le produit de la nature. Et voilà quelle était ma nature. Ce flacon que je serrais amoureusement sur ma poitrine. Un flacon qui contenait du formol et de la peau humaine. Il ne fallait pas que ma sœur apprenne ça. Personne, strictement personne, ne devait savoir. J'avais échoué. Je m'étais montré faible. J'avais succombé à une obsession héréditaire. Mais je pouvais sortir victorieuse de cette épreuve. Bien sûr. Pourquoi pas? Seulement, il fallait commencer par survivre à cette semaine étrange, épouvantable, où le spectre de mon père errait de nouveau dans les rues de Boston, où des jeunes femmes mouraient, et où ma sœur aliénée savait des choses qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Première étape, détruire les preuves. Le carton, les flacons, le formol, les lambeaux de peau, tout devait disparaître. Mais comment? Le formaldéhyde est en réalité un gaz incolore, le plus souvent employé en solution aqueuse pour conserver des spécimens. Outre qu'il est toxique, à forte concentration, il peut avoir des effets nocifs sur les voies respiratoires, irriter la peau et provoquer différents types de cancers. Inutile de vous dire que jeter du formol dans les règles suppose de le signaler comme déchet toxique et de respecter certaines procédures. Mais je ne pouvais pas prendre le risque qu'il soit consigné quelque part que j'avais déposé des déchets toxiques. Le plus simple aurait été de verser la solution transparente dans le lavabo ou dans les toilettes, en faisant confiance au réseau de distribution des eaux de la ville pour diluer cette quantité relativement minime. Malheureusement, je n'étais pas certaine que cela me mette à l'abri de la police scientifique. D'une part, une odeur âcre risquait de persister. Cette odeur si particulière que personne ne l'aurait confondue avec celle d'un détergent pour cuvette de WC. Et par la suite, si jamais les manigances de ma sœur provoquaient une fouille de mon appartement, la police serait-elle capable de détecter la présence, ne serait-ce que de traces de formol restées sur le bord de mon lavabo ou piégées dans mes canalisations? Franchement, je n'en savais rien. On n'aborde jamais ce genre de questions à la fac de médecine. Il allait falloir que je sorte le formol de mon appartement, que je l'emporte ailleurs pour m'en débarrasser. Même chose pour les lambeaux de peau, les flacons, le carton. Un centre commercial. Un vaste lieu public où je pourrais entrer dans de nombreux magasins et dans des toilettes sans éveiller les soupçons. Je pourrais jeter un objet par-ci, un autre par-là, et terminer par un saut à l'épicerie. Juste une femme qui fait ses courses. Ça pouvait marcher. Tant que je restais calme, que je ne me faisais pas remarquer et que je gardais en tête qu'il y avait des caméras partout. Si j'avais appris une chose avec ma sœur au fil des ans, c'était que les meilleures supercheries se cachent sous des couches de vérité. Bien sûr que j'étais allée dans ce centre commercial où il y avait une boutique Ann Taylor. Bien sûr que j'étais passée prendre du lait et du pain. Pourquoi pas? Comme un plan commençait à se former dans mon esprit, je pris une inspiration pour me calmer et me mis au travail. Gants en latex, transvaser tout le formol dans un récipient en verre. Un bocal, par exemple? Mais ça ferait bizarre. Quiconque verrait une femme entrer dans des toilettes publiques avec un bocal plein d'un mystérieux liquide, surtout à Boston, après le double attentat du marathon. Mauvaise idée. Un thermos en inox. J'en avais 4 ou 5 dans le placard de ma cuisine. Je pris celui que j'aimais le moins. D'un bleu métallisé passe-partout, avec un bouchon noir. Et le posai à ma droite, sur le plan de toilette. Deuxième accessoire. Un sachet de congélation d'1 litre, ouvert à ma gauche. Lambeaux de peau déposés dans le sachet. Quelques centilitres de formol versés dans le thermos. Une besogne vite expédiée, franchement. Une décennie de collection démantelée en moins d'un quart d'heure. Je refermai le zip du sachet de conservation, puis le thermos, qui tous deux tiendraient facilement dans mon sac cabas. Sauf que je me retrouvais maintenant devant un nouveau problème. 21 flacons vides. J'aurais pu les laver, les passer au lave-vaisselle et les emporter au cabinet. Des flacons en verre dans le cabinet d'une psychiatre, rien de trop étrange. Mais ne resterait-il aucune trace de formol sur les bouchons en caoutchouc? Sans parler de mes empreintes digitales? Sac congélation, de 4 litres cette fois. 2 plutôt. Après avoir retiré les bouchons, je mis les flacons dans les sacs que j'avais enfilés l'un dans l'autre. Puis, avec la tendrisseur à viande en métal, je m'appliquai à pulvériser le contenu des sachets pour réduire les tubes en éclats suffisamment petits pour passer dans des toilettes. Une étape de plus dans mon expédition achat quotidien, plus suppression de preuves. Le sac de 4 litres prit aussi le chemin de mon cabas, de même qu'un sachet de bouchons en caoutchouc, à bazarder dans une quelconque benne à ordures. Pour la boîte, ce fut un jeu d'enfant. Ce n'était après tout qu'un carton à chaussures. Je retirai la doublure en soie, que je pliai et rangeai dans ma penderie. Le coussin en mousse, poubelle. Le carton, écrasé pour être déposé dans le local recyclable de mon immeuble. Si on remontait la piste d'un de ces 3 objets jusqu'à moi, quelle importance? Oui, monsieur le policier, je reconnais cette boîte. Elle se trouvait dans mon placard, mais j'ai récemment fait du rangement par le vide. Question suivante. Ma tâche enfin accomplie, je retirai les gants en latex pour les mettre dans mon sac. Eux aussi, je les jetterai, mais à un autre endroit. Je sèmerai mes petits cailloux compromettants dans tout Boston. Et je me lavai les mains, encore et encore et encore. Je regardai mes doigts trembler, en me disant que tout allait bien, que j'avais pris la bonne décision, que je n'étais pas obligée d'être cette personne-là, que je refusais d'être cette personne-là. N'importe qui peut changer. Même les pulsions les plus viscérales peuvent se surmonter, avec du temps et de la volonté. Puis, j'allai dans ma chambre, m'assis au bord du lit et fondis en larmes. Parce que ma collection n'existait plus, et que je ne savais pas ce qui désormais pourrait me combler autant qu'elle, m'aider à passer les mauvaises nuits. J'étais seule. Un bébé, sanglé sur un siège auto, et enfermé dans un placard noir comme un four. Le monde entier réduit à un angoissant filet de lumière. Rien à voir, mais beaucoup à entendre. Ne pas comprendre grand-chose, mais tout absorber, comme des petits croque-mitaines prisonniers dans un coin de ma tête. Je t'en prie, Harry, pas le bébé. D'un seul coup, je me relevai précipitamment, courus vers mon bureau, fis tomber un livre, ouvris violemment un tiroir, cherchai. Là, le classeur que mon père adoptif avait constitué. Je feuilletai rapidement les pages, les photos, parcourus à la hâte les notes des enquêteurs sur Harry D, jusqu'à trouver un compte-rendu du légiste. 153. Exactement comme ma sœur l'avait prédit. Comme elle s'en était souvenue. Comme elle l'avait su. La collection de notre père. 153 bandelettes de peau conservées dans une grosse trentaine de bocaux. Je décrochai mon téléphone et appelai Didi Warren.